Normalement, je voudrais ce matin continuer à prêcher dans un message. J'avais commencé la semaine dernière et je vais faire un petit récapitulatif. Qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? Et la semaine dernière, j'ai posé la question, pourquoi tu viens à l'église? Vous vous rappelez? Et après, je dis, l'importance de venir à l'église, c'est de trouver l'unité pour louer ensemble, comme on l'a fait ce matin, pour prier ensemble, pour écouter la parole de Dieu, la prédication, pour faire amitié, pour trouver des partenaires en Christ, de bonnes amitiés, pour s'appuyer dans les moments de difficulté. Mais le plus important, en tout cas, de l'Église, c'est de faire la volonté de Dieu, que c'est quoi? La Bible, il dit que c'est la grande commission. C'est quoi la grande commission? C'est aller vers le monde pour partager la parole de Dieu, pour parler de son amour, pour dire dans un monde qui est en décadence, il y a un sauveur qui est Jésus, il y a l'espoir et l'espoir est en lui. C'est ça le message qu'il faut partager. Et c'est pour ça qu'on est là. Alors, oui, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai partagé la semaine dernière? Et c'est l'importance pour l'unité. Alors, c'est quoi les soucis? Les désirs de Dieu, c'est quoi? C'est travailler l'unité. C'est pour ça que j'ai partagé, ça fait quelques semaines, et pendant les temps de prière, Jean 17, et c'est la prière que Jésus il a fait pour ses disciples. Il a dit, Seigneur, il faut que les disciples et les personnes qui vont venir après les disciples, ils soient en unité comme toi et moi, on est un. Alors, ça, c'est le désir du Seigneur. Mais il y a aussi le désir de l'ennemi. Il y a aussi le désir de Satan. Et c'est quoi le désir de Satan? C'est s'aimer la division. Travailler avec un esprit de division. Je sais que ça, c'est un message que peut-être tu as écouté déjà quelques fois. Mais je voudrais ce matin, je demande la prière au Saint-Esprit. Je vais commencer par la prière pour demander à Dieu qu'il vienne et qu'il nous révèle à chacun de nous si des fois on est attaqué par cet esprit ou on est, et poussé par cet esprit à agir peut-être dans mon couple, dans ma famille, dans l'église, dans mon voisinage ou dans la société à niveau général. D'accord? Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Père, parce que tu nous as laissé ta parole comme une guide pour nous conduire. Je te prie, hein, Seigneur, que tu prends ta parole et qui et on arrive à la recevoir dans notre corps, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous révèle ce matin, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut changer et les choses qui ne vont pas bien dans notre vie, Seigneur, pour travailler dans l'unité, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, je voudrais commencer par Matthieu 12, 25. Et si on peut, je ne sais pas si Jérôme il est là-haut, si on peut passer cette slide, s'il te plaît, Peter, merci. Alors, on va voir les versets ici parce que je l'ai noté ce matin. Voilà. Vaincre l'esprit de division. Matthieu 12. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il parlait de toutes les personnes qui étaient opposées à lui. Il parle de pharisiens. Alors, il a dit à toutes ces pharisiens, tout royaume, écoute ça, déchiré par la guerre civile et dévasté. Vous avez vu les images de la guerre maintenant? Vous avez vu les images dans l'Ukraine? Vous avez vu les images en Israël? En Gaza, c'est ça l'esprit de division qui règne dans le monde entier. Alors, on les voit partout. Il faut sortir dans la rue et tu vas voir deux personnes qui sont en train de se battre. Tu prends la voiture, tu vas conduire et tu vas voir que tu vas trouver quelqu'un qui te dit « Ah, mais je suis énervé avec telle ou telle personne. » Alors, c'est qui travaille à ce moment? Et moi, j'aime bien partager de l'unité, mais j'aime bien aussi montrer à tous les chrétiens de quelle manière l'ennemi il peut travailler pour éviter qu'on soit affecté par cet esprit. Alors, on a tous été touchés dans un moment par cet esprit. N'est-ce pas? Alors, il dit, tout le royaume déchiré par la guerre civile est dévasté. aucune ville, écoute ça, aucune famille divisée ne peut subsister. Et ça, c'est un principe, comme le principe d'unité. Il y avait, comment s'appelle, César, je pense Julius César, qu'il a, c'était à lui nommé la grande phrase qu'il a dit, et il faut diviser et tu vas gagner. C'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas traduire ça en français, mais en tout cas en espagnol, il dit, tu trouves la division et tu vas remporter la victoire. C'est Julius César qui a dit ça. C'était un grand guerrier. Alors, tout le monde sait de quelle manière l'ennemi il voudrait travailler dans notre vie et dans notre famille. C'est pour ça que j'ai démarré pour Matthieu 12, 25, que c'est même dans la bouche de Jésus qu'il a évoqué ces paroles pour dire une maison qui est divisée contre elle-même, jamais elle pourra tenir. Ah, merci. Alors, on les voit dans tous les domaines. On les voit à niveau personnel, à niveau de notre vie. Je parlerai tout à l'heure de ça. On va les voir à niveau des couples, à niveau des familles. On les voit aussi dans la politique aussi. On voit les divisions qu'il y a à niveau politique maintenant dans tout le monde entier. Il y a des personnes qui se divisent, ils commencent à mettre une brèche très longue entre un côté et l'autre côté. Alors, qu'est-ce que c'est alors l'esprit de division? Ou comment on peut définir l'esprit de division? Ça c'est important de connaître ce principe. C'est, écoute ça, c'est une force spirituelle. Quand on dit c'est une force, ça veut dire que c'est une puissance, c'est quelque chose que je ne peux pas voir des fois. Je ne peux pas vraiment voir la division en face de moi. Oui, bien sûr, des fois je les vois. Des fois je les vois quand il y a un divorce dans un couple. Bien sûr que c'est l'esprit de division qui a travaillé derrière. Des fois, je les vois quand il y a une église qui est divisée. Bien sûr qu'on les voit. On l'a vu aussi. Ou je peux les voir aussi dans la guerre, comme je disais tout à l'heure, maintenant en Israël, que ça divisait à tout le monde. Maintenant, je pense qu'on n'est pas en capacité de garder un équilibre. Quand tu parles avec quelqu'un, les gens, ils vont dire, tu es contre ou tu es pour Israël. Mais jamais il y a des moyens. Alors, l'ennemi, il travaille dans cette période pour essayer de diviser le monde entier. Il est plus difficile, c'est de nous diviser à nous-mêmes. Il essaye de que tu sois divisé. Et divisé avec qui? Je vais te dire tout à l'heure. Alors, c'est une force spirituelle, écoute ça, contraire. Directement contraire à quoi? À l'unité, à l'harmonie, comme j'ai partagé la semaine dernière, à l'harmonie et, ça c'est important, et à l'accord. C'est important l'accord. Et c'est contraire aussi, écoute ça, à la réconciliation. Et ça c'est grave. C'est ça qui est grave. Parce que tu peux avoir des différences avec ta femme. Moi, j'ai des différences. Hein. On est complètement différents. Bon, pour dire, ah oui, c'est facile, vous êtes tous les deux Colombiens. Et je sais qu'ici, il y a des couples qui voilà, ils sont des pays différents. Et Charles et sa femme, ils sont africains, mais pas du même pays. Alors, des fois, quand on commence la relation en couple, on voit qu'il y a des différences, manières de faire les choses. Et il n'y a pas seulement que ça. Il y a des différences de caractère. Des fois, voilà, il y a une personne qui est calme, il y a l'autre qui est plus fort à niveau de caractère. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu pour, et que l'ennemi il pourra profiter pour créer la division. N'est-ce pas? Alors, tu peux être différent, mais il y aura toujours un moyen. Et c'est la réconciliation. Et c'est ça que l'ennemi, il ne voudrait pas que les gens ils fassent maintenant. Parce qu'on va voir la division. C'est impossible d'être dans un monde entier qu'on va penser tous la même chose ou qu'on va être d'accord dans toutes les décisions qu'on va prendre. Mais c'est pour ça que je parlerai à la fin de le principe de l'accord. On peut être d'accord pour faire quelque chose. On peut s'aider, on peut être flexible. Et c'est ça que je voudrais évoquer ce matin, parce que c'est l'importance ensemble, une famille, pour garder nos enfants, nos petits enfants aussi. Parce que moi, j'ai connu des couples qui sont très forts en lui-même, la femme et l'homme, mais après, le problème, c'est avec ses enfants ou avec ses petits enfants. Alors qu'on en parle de l'unité, on parle que le Seigneur, il nous aide, pas seulement à garder l'unité personnelle, couple et familiale, sinon à tous les niveaux dans les endroits que le Seigneur il nous envoie. On a la possibilité, je répète toujours la même chose, mais c'est important d'être un instrument d'unité dans les mains de Dieu, mais j'ai la possibilité aussi, si je suis entraîné par l'ennemi, d'être un instrument qui divise dans tous les domaines et dans tous les endroits que j'ai séries. Alors, j'aime bien qu'on réfléchisse tous ce matin. Je dis tout le temps, mais je ne suis pas là pour te juger, je ne connais pas ta vie, mais j'aimerais bien ce matin que le Saint-Esprit, il te révèle les choses pour que tu dis, ah oui, peut-être j'ai fait tort à ça, ce n'est pas toujours ma faute, mais j'ai fait tort dans cette situation. Seigneur, j'ai besoin que tu me pardonnes, que tu m'aides. Et s'il faut que tu fasses la restauration et la restitution, c'est important de le faire. Amen. Il y a quelques caractéristiques de l'esprit de division. Écoute bien ça. Qu'est-ce qu'il veut l'esprit de division? En première, l'esprit de division, il veut que tu vois l'autre comme un adversaire. Et dans le pire des cas, un ennemi qu'il faut détruire. Ah, ça c'est grave, parce que des fois ça vient dans les couples. Ça passe dans les couples. Je pense que quand on se marie, tout le monde va à l'église et content. Avec une sourire, je pense pas qu'on arrive à l'église pleurant pour dire ah là là je vais me marier, mais c'est pas non, mais c'est pas toujours la vie comme ça. C'est pas toujours comme on voit dans les films de Hollywood romantiques. Non, la vie c'est pas seulement comme ça parce qu'on sait qu'on a un adversaire. Alors quand on commence, toutes les choses vont bien, voilà, il y a le premier amour, on est amoureux, il y a tout ça, mais après ça commence à devenir de temps en temps en bataille, en guerre. Et c'est triste, parce qu'à la fin, je pense, je traversais une période assez difficile. Et je me rappelle, parce que je ne vais pas parler d'autres couples, je parle de la mienne et ma femme, elle m'a donné l'autorisation. Alors voilà, comme ça, je n'aurai pas de lutte, je rentrerai à la maison. Et vous savez, dans les moments plus difficiles que Paula et moi, on a traversé, ça fait 5 ans, et moi j'ai retrouvé, quand j'ai préparé les messages hier et ce matin que j'ai prié, j'ai retrouvé cet élément dans ma vie et peut-être dans la vie de ma femme aussi. Et les premières que je viens d'évoquer, c'était qu'on commence à voir l'autre comme un adversaire. On commence à dire, lui, il voudrait me faire mal à moi. Vous avez vécu ça? Moi, je l'ai vécu. Hein? Et moi, j'étais vraiment, c'était un mensonge de la part de l'ennemi. Parce que lui, il travaille comme ça. Je ne vais pas parler aujourd'hui de l'esprit de confusion, mais ne vous inquiétez pas, je parlerai aussi. Parce que c'est des choses qu'il faut démasquer et qu'il faut connaître. L'esprit de division, il travaille à côté de l'esprit de confusion. Mais ce n'est pas ça que je vais parler aujourd'hui. Mais en tout cas, il commence à nous parler de mensonges dans notre tête. Et comme ça, on arrive à dire, écoute, ce n'est pas la personne que j'avais à ma côté, maintenant c'est comme mon adversaire. Alors, il donne le pire des cas comme une personne qu'il faut détruire. Je ne sais pas si ça passe souvent ici en France, mais je me rappelle quand j'arrivais en Espagne, il y avait toujours, pas toujours, mais de temps en temps, des couples très âgés, 70 ans, 80 ans déjà d'âge, et des fois, les maris qui tuaient sa femme. Alors c'est incroyable. Et ça se passe en Espagne. Je l'ai vécu, hein, un homme, 72 ans, qui l'a tué à sa femme. Alors je dis, comment ça arrivait à ça? C'est l'esprit de division que jamais ils sont travaillés dans son couple. Toujours l'ennemi, il gagne des terrains. Et si tu laisses à l'ennemi toujours gagner un petit peu plus de terrain, il va les faire. Vous savez, dans Matthieu, qui on vient de lire tout à l'heure, le verset, il est là, Matthieu 12, verset 25, si tu continues à lire, il dit, c'est Jésus qui parle, il dit, si un homme, il voudrait s'approprier d'une maison comme ça, et ça parle de l'ennemi. Imaginons que l'ennemi, il vous prend le contrôle de cette église. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'homme fort. et il va l'attacher complètement. Alors l'ennemi, il commence à travailler comme ça. Il commence à introduire un petit mensonge, à semer la division. Et vous vous rappelez de la parabole du blé et de la cizagne. Il y a Dieu qui, c'est lui qui a semé. Alors il a semé les blés, il a semé les bonnes choses dans notre vie. Tu peux dire, moi je suis chrétien, j'ai des bons principes, je suis attaché à la parole de Dieu, j'ai ma faim, on marche ensemble. Alors des fois, on dit, voilà, tout va bien. Et dans mon cas, c'était ça. Il y a un moment que je dis, la vie va bien, je suis bien, je suis pasteur, ma femme elle va bien, je vais bien. Alors on se confie. Et après l'ennemi, il va profiter le petit brèche. Les petites fissures que tu as dans ta vie. C'est pour ça que c'est important de parler de cet esprit de division. Alors, il va commencer à gagner un peu de terrain. Il y a un moment que tu ne te rendras pas compte et après tu vois quoi? Les effets. Et tu vois en face l'esprit de division qui se manifeste. Il y a une autre caractéristique de l'esprit de division. Chaque personne commence pour désaccréditer les comportements de l'autre personne. Et c'est comme ça qu'il marche l'esprit de division. Je commence à dire, ah oui, pardon. L'autre personne, il ne fait pas les choses comme je voudrais faire les choses. L'autre personne, son comportement, ce n'est pas comme je voudrais que l'autre personne soit avec moi. Je parle d'un couple, mais tu peux le passer dans tous les domaines. Il y a un troisième. J'oublie un, chacun se sépare pour chercher sa propre indépendance. C'est pas mal l'indépendance. C'est pas mal qu'ils vont grandir, ils vont partir. Le problème, c'est quand tu as un enfant ou tu as déjà quelqu'un avec 16 ans ou 17 ans à la maison qu'il voudrait l'indépendance. Parce que ça parle d'un esprit de division entre la famille. Parce qu'il ne supporte pas être à la maison. Il voudrait sortir. Aller ailleurs. Et 4. Comme je peux identifier qu'il y a l'esprit de division dans ma vie? Pourquoi? Parce qu'il y a le manque de pardon. Il y a l'amertume. Attention à l'amertume. Il faut parler à l'église de l'amertume aussi. Parce que c'est quelque chose qui consomme notre vie, vraiment. Et l'amertume, je vais avancer ça. Ça se produit souvent, ou presque tout le temps, pour le manque de pardon. La manipulation, ça va commencer à ressortir quand j'ai l'esprit de division. 5. Ça se manifeste avec un fort orgueil. Je ne peux pas supporter l'autre. L'orgueil, ça veut dire il faut faire les choses à ma manière. Je ne peux pas supporter faire les choses comme ma femme, elle voudrait les faire, comme mes enfants, ou comme, je ne sais pas, mon pasteur ou les personnes à l'église, ils voudraient les faire. Quand on est dans l'orgueil, qu'est-ce qu'on fait? On participe à l'esprit de division. Parce que moi, si je suis dans l'orgueil, je dis, alors, uniquement la manière de faire les choses ici, dans ma famille, c'est à cette manière-là. Alors, jamais je vais écouter à Paula, si peut-être elle a une très bonne idée, jamais je vais écouter mes filles, et je vais dire, écoute, c'est moi, le roi de la maison, c'est moi le chef de la maison, et je peux prendre la parole pour dire, ça c'est quelque chose de spirituel. Alors tu vas me suivre et les filles vont me suivre. Jamais ça va fonctionner une famille comme ça. Parce que dans une famille, il faut toujours la compréhension, il faut l'amour, il faut s'écouter, il faut se pardonner. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut travailler à l'orgueil. Parce que l'orgueil, il ne nous empêche pas de voir notre péché. Tu sais qu'est-ce qu'il fait l'orgueil? L'orgueil, il fait comme dans la vie, je dis ça tout le temps, comme dans la vie de... j'ai oublié son nom. Qui a été pris pour les Philistiens et que les ennemis, ils sont retirés les yeux. Vous savez? Samson, merci. Alors, c'est ça qui fait l'orgueil dans notre vie. Quand tu es dans l'orgueil, tu es incapable de voir qu'est-ce qu'il y a en face de toi. Et ça... Ça, c'est quelque chose que l'ennemi utilise souvent pour diviser tout le temps. Et sixième, l'esprit de division, il travaille avec le jugement et l'accusation. Dans un endroit, dans une famille, qu'il y a l'esprit de division, il y a toujours quelqu'un qui va venir à te juger et à accusé pour quelque chose que tu as fait. C'est pour ça que c'est important de rester dans la douceur et travailler le Saint-Esprit dans notre vie. Parce que le Saint-Esprit, il y a la joie, mais il y a aussi la douceur. Il y a aussi la bonté. Il faut nous laisser traiter pour le Saint-Esprit aussi. Je sais que un jour, je partagerai au fond par rapport au Saint-Esprit, parce qu'il y a, deux choses importantes, ça dépend du caractère de nous, mais il y a des personnes qui sont très fortes et que peut-être il faut qu'ils travaillent un peu la douceur. Mais de l'autre côté, il y a des personnes qui, des fois, ils sont dans la peur et c'est important de travailler la maîtrise de soi. Alors, c'est le Saint-Esprit qui peut équilibrer ta vie et ma vie aussi. On peut dire, le Seigneur, il m'a fait comme ça. Ah, je dis les choses d'une manière directe et j'essaierai toute la vie comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Dieu, il peut travailler dans notre vie si tu le permets. Ah, j'ai toujours dans la peur. Je peux pas conduire, je peux pas faire ça, je peux pas travailler. Je ne suis pas capable de prendre quelque chose en charge. Non, le Seigneur, il pourra t'aider parce que tu as le Saint-Esprit. Sinon, qu'est-ce qu'on fait là, ce matin? On est là juste pour quoi? Pour nous amuser, pour écouter un message? Non, c'est le Saint-Esprit qui peut travailler dans ta vie, dans toutes les choses que tu as besoin. Et ça, c'est important de nous rappeler. Il les limite, ça, l'esprit de division, à la fin, qu'est-ce qui va ramener? Infidélité et trahison. C'est ça le but de l'esprit de division. Les trahisons et l'infidélité à tous les niveaux. Comment on travaille l'esprit de division? Premier point, écoute ça. Dans ta vie, dans notre vie. Genèse 3. Genèse 3, verset 1. C'est le commencement, c'est la Genèse. Écoute ça. Les serpents étaient les plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger de fruits de tous les arbres du jardin ?» Alors, la première chose que l'esprit de division il va faire, c'est de mettre une séparation, écoute, entre toi et Dieu. C'est la première chose qu'il va faire. Et ça, on les laisse faire parce qu'on pêche, on rentre dans les péchés. Et c'est les péchés, je vais lire, mais Isaïe 59, il dit qu'on est divisé, il y a une division entre Dieu et nous, et c'est à cause de notre péché. Je ne vais pas le lire parce que sinon je vais passer ici toute la journée. Mais le plus important, c'est ça. En Genèse, on voit qu'il y avait Ève qui était dans les jardins, que le Seigneur il avait donné à tous les deux un ordre pour obéir. Et après qu'à la fin, c'est l'ennemi qui, d'une manière très facile, il va venir à murmurer. Et c'est comme ça qu'il travaille l'esprit de division. Vous savez, l'esprit de division, il travaille avec la murmuration. Ça fait partie de l'esprit de division. Alors, il a venu, il a murmuré. Il a fait un murmure à Ève et il a dit, on a lu, vient de lire, écoute, vous n'avez pas le droit de manger de fruits de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas de tout. Vous ne mourrez pas, seulement Dieu sait bien que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Alors la femme vit que les fruits de l'arbre étaient bons à manger, agréables aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, parce qu'elle voudrait l'intelligence, ouais. Elle prit son fruit et en mangea. Elle a mangé de fruits. Alors, qu'est-ce qui va. Comment fonctionne l'esprit de division? Première chose, j'ai montré tout à l'heure toutes les manifestations, mais comment il va marcher? La première chose qu'il va faire. Et moi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que j'ai partagé j'ai fait une prédication complète, il va travailler dans ta tête. Il va travailler dans tes pensées. Et c'est ça qu'il a fait pour mettre, il s'est mis la doute dans la vie d'Ève. Elle a dit, Ève, vous avez la possibilité de trouver l'intelligence. Vous avez la possibilité de trouver la sagesse. Est-ce que vous voulez discerner entre le bien et le mal? Alors, il faut manger. Vous serez comme Dieu. En plus, il a montré qu'on peut arriver à être au même niveau de Dieu. Et c'est ça qui fait l'ennemi. Il nous divise. Il met une brèche. Ça, c'est des brèches en français, non? Il fait un écart entre nous et Dieu. Et il a gagné. Pas complètement la guerre, parce que c'était loin, mais il a gagné dans cette petite bataille que l'ennemi il a fait avec Ève. Et Ève, elle a tombé dans les désirs de l'ennemi. Et on va voir les résultats tout à l'heure, parce que il y a des conséquences de cet esprit de division quand il travaille dans la vie de quelqu'un. Mais déjà, dans la vie de Ève, elle était divisée parce que l'ennemi, il arrivait avec les murmures à mettre des divisions entre Dieu et Ève. On va lire aussi Jacques 1. À partir du verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, vous rappelez, qu'est-ce qu'il a offert l'ennemi à Ève? La sagesse. Il a dit, tu vas gagner l'intelligence. Tu vas avoir la sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est discerner entre le bien et le mal. Alors, écoute ça. Si l'un de vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui la lui donnera? Car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Verset 6. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par les vents. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Écoute ça, verset 8. Son corps est partagé, ça veut dire divisé, parce qu'il est inconstant dans toutes ses entreprises. Voilà comme l'ennemi il a gagné. Il a mis ça dans les corps d'Ève. Alors, Jacques, il nous apprend, tu veux la sagesse, il faut la demander à Dieu. Bien sûr qu'il faut avoir la foi qu'il va nous donner, mais il faut que tu crois. On ne peut pas, des fois, on est des chrétiens, qu'on est une chose à l'église et une chose à la maison. Qu'on a un visage à l'église et un autre visage devant notre famille ou devant les personnes à l'extérieur. Alors, il faut être dans l'intégrité. Il faut être un. C'est ça. Les mots intégral, ça veut dire unité, complet. Et c'est ça que le Seigneur il veut de nous. Qu'on soit le même ici, le même à l'extérieur, le même en Colombie, le même en Afrique, n'importe quel endroit qu'il nous a appelé à faire les choses, qu'on soit dans l'intégrité. Et c'est pour ça que Jacques, il dit, si tu demandes quelque chose et tu n'es pas dans la foi, tu dis, ah oui, je crois aujourd'hui que le Seigneur il va le faire. Demain, tu dis, ah non, mais j'ai la doute. Il ne faut pas douter. Parce que c'est dans l'ambiguïté que l'ennemi, il commence à travailler et plutôt dans notre tête. Mais t'inquiète pas, ça nous arrive à tout le monde. À moi aussi. Je débataille quand je vois les choses, quand on voit le monde entier, quand on voit la difficulté, on dit, Seigneur, est-ce que tu vas me protéger de cette situation? Seigneur, est-ce que je vais faire dans cette situation? Alors on commence à douter. Quand il y a une situation difficile en face, on commence à douter vraiment. Il nous a laissé tomber. Et vous savez, je vais raconter un petit témoignage que j'ai vécu cette semaine avec ma femme. On a eu une semaine assez rare et assez difficile. Et il y a son frère qui le samedi, parce qu'il était en Barcelone, et il a dit, écoute Paula, je viens d'acheter un billet de train, alors je vais passer à te visiter. Alors cette visite pour nous, c'était une visite surprise déjà. Alors bon, on est flexible, on a dit, écoute, on va le faire. Je m'organise un petit peu, on a passé à les chercher parce qu'ils sont arrivés à Versy. Ils sont passés lundi, mardi et mercredi chez nous. Mercredi soir, j'étais à l'aéroport pour le déposer à l'aéroport. Bon, ils sont partis vers l'Espagne avant de rentrer en Colombie. Mais quand j'étais là-bas, il y a ma femme qui voit... On était dans l'aéroport de Bobé. Et il n'y avait pas de monde, mais ma femme, elle s'est aperçue qu'il y avait un couple avec une petite fille, et un an et demi à peu près. Un an et demi. Et après, ils ont commencé à parler, on a entendu que c'était la langue espagnole. On a dit, je pense qu'ils sont colombiens, parce qu'on connaît l'accent de notre pays. Et on a vu que c'était un peu dans la désespération, dans une situation difficile. Alors, il y a ma femme qui me regarde, il me dit, écoute, je vais y aller, on va voir qu'est-ce qui se passe, il faut les aider. Et moi, je dis, écoute, on va faire les choses, mais tranquillement, parce que je connais ma femme, alors elle voudrait les aider, tu sais. Et alors, Paula, il a parlé avec cette couple, mais pas avec la couple, il y a la femme qui est partie parce qu'il y avait des problèmes avec l'avion et tout ça. Alors, Paula, il s'est rapproché, il a parlé un petit peu avec... Moi, je me rapprochais avec sa fille. Et après, il nous a dit, on a raté pour aller à Venise. C'était 22h la nuit, un mercredi soir à Beauvais. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Jamais ils sont sollicités, vous pouvez m'aider, vous pouvez faire quelque chose. Non, on n'a pas écouté quelque chose comme ça. Et après, la femme, elle part dans un côté. Je suis passé pour les traduire en français, pour l'aider. Mais à la fin, je ne sais pas pourquoi, on commence à parler de Dieu, à parler du Seigneur. Et après, cette couple, elle dit, on est chrétien. Ils habitent une ville à côté de chez nous. Ils sont chrétiens, mais ils ont gardé la foi pour dire, on sait que le Seigneur, il y a quelque chose préparé pour nous. À les vols, ils s'étaient logés à Paris, dans un hôtel. Ils ont pensé que c'était 40 minutes pour aller à Vouvé. Ça a pris 2 heures, 2 heures 30. Ils ont perdu les vols. Mais le plus difficile, c'était de voir l'appétit. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et en plus, il savait payer 200 euros de déplacement pour aller en taxi de Paris là-bas. Alors je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont commencé à demander, on a demandé, il y a un autre vol, mais ça c'est le lendemain, à midi. Et après, Paula et moi, on s'est regardé, on a dit, ah, c'est l'occasion de faire la miséricorde, on va ramener un couple chez nous ce soir à dormir. On n'a pas pensé autrement. Parce que vous savez, il y a quelque chose que j'ai réfléchi avec ma femme cette semaine. L'ennemi, il travaille, il essaye de nous diviser et il veut qu'on perde la confiance. Bien sûr, on ne va pas ramener tout le monde à dormir à la maison. Bien sûr, il faut avoir le discernement, il faut regarder. Mais vous savez, il y avait un moment que je commence à regarder les garçons, il y a un t-shirt ici qui disait « Moi et ma maison vont servir le Seigneur ». Alors quand j'ai regardé ça, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui ai dit « J'ai une entreprise ». Que tu fais? Moi, je ne voudrais pas dire que je suis pasteur. Je suis pasteur dans une église. Alors, la dame, elle était contente. Ah, j'ai un groupe de prières. Tu sais, le lendemain, le jeudi, il s'est réveillé à 3h du matin à prier avec un groupe qu'il a en Colombie pour prier le matin. Alors, moi, j'étais venu pour cette couple qui a été chez moi. Que vraiment, le Seigneur, il m'a montré comment il agit. Parce que cette couple, il a dit, oh, on est perdu, on n'a pas l'espoir, on va rester toute la nuit dans un aéroport. Après, Paula et moi, on a dit, vous venez chez nous. Ah, c'est loin, comment on fait pour demain? Il faut quitter l'avion, faire tout ça. Et après, nous, on a dit, il faut faire grâce, parce que de grâce, on a reçu les choses, on va faire les mêmes choses. On a pris cette couple, on est arrivé presque à minuit chez moi. Moi, j'ai arrangé tous mes travaux pour, heureusement, je suis très heureux de voir Jaime qui travaille avec moi. Alors, j'ai resté pour les aider à acheter les billets d'avion. Et les jeudis à midi, on les a ramenés. Le Seigneur, il nous a permis de prier pour cette couple, de renforcer la foi. Et ils sont vus comme le Seigneur, il peut agir. Mais il faut la foi. C'est pour ça que je viens de partager cette verset. Il faut la foi pour croire que même qu'on est dans la situation plus difficile, le Seigneur, il peut envoyer des anges. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Ah, vous êtes comme des anges que le Seigneur, il a envoyés. Bien sûr qu'on peut faire les boulots, mais il faut les faire. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Parce qu'il y a tellement de besoins. Il y a vraiment des besoins à l'extérieur. Bien sûr, on ne les fait pas avec tout le monde. Il faut avoir la sagesse aussi pour prendre des décisions. Mais on est très bénis. On a ramené cette couple à la maison. Ils sont passés la nuit. On a prié ensemble avant de dormir. Le lendemain aussi, on a gardé les contacts. On ne sait pas ce que le Seigneur veut faire pour cette couple. Moi, j'ai prié pour cette couple et je vois un couple que le Seigneur, il veut lever pour venir. Et en plus, vous savez, ils ont raté un avion pour aller en Italie parce que cette dame, il m'a dit... J'attends peut-être la possibilité de retrouver quelqu'un de ma famille parce qu'elle a l'héritage de l'Italie pour demander un héritage et pour demander aussi les documents pour venir en Italie. On ne sait jamais si le Seigneur est en train de préparer des missionnaires qui vont sortir de Colombie pour partager dans les nations, pour prêcher la parole de Dieu. Alors, des personnes fortes dans le Seigneur. J'ai vu peut-être plus fort la dame, mais j'ai vu à lui, je pense que le Seigneur est venu pour lui. Ma femme, il m'a dit, écoute Oscar, cet cadeau de bénédiction pour cet homme, c'est cette situation qui a traversé cette famille, c'était parce que le Seigneur il voudrait montrer à cet homme comme le Seigneur, il prend toujours soin de lui et jamais le Seigneur, il va le laisser tomber. Amen. C'est un témoignage de quelque chose qu'on a vécu, qu'on a été très, très, très béni cette semaine chez nous. Ça nous a bouleversé les horaires, ça nous a bouleversé à niveau, à tous les niveaux, mais c'est pas grave. Des fois, il faut aller un petit peu plus loin pour venir les gens et pour être toujours à l'écoute quand le Seigneur il nous montre les choses. C'est pour ça l'importance de travailler en équipe. C'est pour ça l'importance de travailler bien entre un couple. Moi, à l'époque, je me rappelle, ma femme, elle venait pour me dire, écoute, Oscar, il faut aider à je ne sais pas qui. Moi, je disais, non, hors de question. On ne peut pas, on est dans l'aéroport, on ne connaît pas cette couple. Qu'est-ce qu'ils font ici? Alors, j'avais plein de choses pour dire, je ne peux pas, on ne peut pas. Mais maintenant, j'écoute ma femme. Pas tout le temps, mais quelquefois. Et ça nous a aidé à nous aussi à travailler l'unité parce qu'on dit on peut le faire ensemble, c'est possible. Alors je ne voudrais pas rater l'occasion de vous partager cet témoignage. Alors son corps est partagé, il est constant dans tout ce domaine. Deuxième chose qui va attaquer l'esprit de division après d'attaquer ta vie personnelle, après de mettre des mensonges dans ta vie pour que tu sois divisé entre Dieu et toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer la famille. Alors, Genèse 2, 24. Je vais passer rapidement. Genèse 2, 24. Écoute ça, c'est un mandat de Dieu. Il a dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. C'est ça le mandat du Seigneur. Il faut l'unité entre un couple. Alors, comme l'ennemi, il voudrait la diviser. Genèse 3, 6. On revient parce qu'on a lu tout à l'heure Genèse 3. Alors, Genèse 3. Et à partir du verset 6, je le reprends. Elle prit 6. Alors la femme vit que les fruits de l'arbre étaient bons à manger, agréables aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles et des figuières. Alors, je pense que c'est la première division qu'on peut trouver dans la parole de Dieu, c'est ici. C'est le moment que Ève, il a désobéi à Dieu, il a fait tomber son mari aussi. Mais je pense que, imaginons, la Bible, il ne montre pas l'histoire après que Dieu il a rencontré à Ève, parce que vous savez, vous connaissez bien l'histoire, ils ont commencé à se cacher pour dire non, Dieu il est là. Et alors le Seigneur lui a dit, pourquoi vous êtes cachés? Je pense qu'à ce moment-là, il y a commencé la division entre la famille, parce que c'est tout le reproche pour dire, ah, c'est toi. Et on peut le lire si on continue à dire. Il y a Adam. Quand le Seigneur il les pose la question, parce qu'il était en autorité, on va le lire dans les versets. Dans les versets 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda. Pourquoi il appelait Adam? Parce qu'Adam, c'est le responsable. C'est la responsabilité d'Adam, sa femme. Alors il appela, il lui demanda, où es-tu? Celui-ci répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur, car je ne suis nu, alors je me suis caché. Qui t'a appris que tu es nu? Auras-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, écoute ça la réponse d'Adam. La femme que tu as placée auprès moi, c'est pas ma faute, c'est la tienne, Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a donnée et je n'ai mangé. Ça a commencé la division entre la famille. et un couple. C'est la première histoire. Ça s'arrête ici, mais imaginez la bagarre qu'ils ont eue après cette situation. Hein. J'étais en train d'imaginer, de faire mon propre film, après qu'ils sont sortis d'avoir toute la vie facile, de toutes les malédictions qu'ils sont tombés sur les dos. J'imagine pas les moments qu'ils sont sortis de l'Éden. C'était la catastrophe. Je vais te dire une chose. S'il y a divisé, écoute ça. Si l'ennemi, il arrive à te diviser, à toi, avec ta femme, il y a un couple divisé, ça va se transmettre directement aux enfants. C'est souvent que ça marche comme ça. Et ça, c'est le cas. On va voir. C'était le cas, bon, je ne vais pas lire, mais c'était le cas entre les deux enfants qui sont nés d'Adam et Ève. Et c'est un qui a tué à son frère. Et c'est la première, quoi, on dit assassinat, non? Voilà, c'est la première qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et c'est une division qui avait commencé par les parents et qui déjà s'était transmise dans ses enfants. Il y avait, comme disait ce matin, j'aimais beaucoup l'intervention d'Alexis, parce qu'il a la jalousie. Et c'était ça qui était entre Caïn et Abel. Et il y avait la jalousie, parce qu'il y avait un qui faisait les choses bien, l'autre qui ne faisait pas bien les choses, il ne plaît pas à Dieu. Alors c'est ça qui a fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les connaissez bien, mais c'est comme ça qu'a commencé la division. Après, il y a, dans la parole de Dieu, il montre qu'il y a des divisions aussi dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, le titre c'est les divisions à Corinthe, verset 10. Il faut cependant, frères et sœurs, que je vous adresse une recommandation instante. C'était Paul qui parle. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je l'ai fait. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. C'est ça le conseil. Ne laisse pas de division, écoute ça, ne laisse pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. En effet, mes frères et sœurs, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. C'était la première église. On parle de la parole de Dieu. Il y avait déjà la division à ce moment-là. Alors, verset 12, voici ce que je vous dis. Chacun de vous tient ce type de langage. Pour moi, c'est Paul. Ou pour moi, c'est Apollos, ou pour moi, c'est Pierre, ou encore pour moi, c'est Christ. Verset 13, voyons. Écoute ça, écoute bien cette question. Christ serait-il divisé? Non, il n'est pas divisé. C'est nous qui faisons la division. Et moi, maintenant, quand je regarde par Internet des pasteurs qui disent, écoute, l'enlèvement de l'église, il va être avant ou après, ça c'est quelque chose de discord maintenant entre les chrétiens. Pourquoi on est divisé vraiment? Si tu regardes l'église, il est une, c'est un seul corps comme j'ai partagé la semaine dernière. Et c'est triste de voir toutes les dominations qui commencent à se diviser de cette église. On voit qu'il y a le catholicisme, oui, ils sont fait des torts, ils sont fait des soucis. Bon, ça va, on a aussi des problèmes. Même nous, qu'on est chrétien, on est protestant, on est évangélique, on ne connaît pas toute la vérité. Et c'est ça que j'ai dit. J'ai réfléchi beaucoup, souvent avec Jaime par rapport à ça. Parce que j'ai dit, comme un pasteur peut dire, je suis complètement sûr que l'Église, il va traverser tous les moments de la tribulation. Il prend un micro, il dit une vérité qu'il croit qu'il sait bien. Mais on ne connaît pas. On ne sait pas. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont bien décrites, qu'on connaît bien, mais il y a un moment que chaque église ou que chaque dénomination commence à dire ça s'est fait, ça ne s'est fait pas. Alors, il y a un autre que je connais, très bien connu, qui dit non, l'église, il va être enlevé, n'est-ce pas? C'est ça? Il va être enlevé. Alors, ça, c'est maintenant, et même dans les réseaux sociaux et dans les églises, quelque chose que l'ennemi il profite pour diviser les pasteurs. Et c'est rigolo, hein? Parce qu'on dit, on est tous dans le même bateau. C'est vrai? Je ne sais pas. Alors, des fois, qu'est-ce que c'est ça qui travaille? C'est l'orgueil d'un pasteur, c'est l'orgueil d'une personne pour dire j'ai toute la vérité, j'ai toute la connaissance. Moi, je n'ai pas toute la vérité. Moi, je ne connais pas tout. Et moi, comme pasteur, je peux te dire, je connais un petit peu de la parole de Dieu et de la Bible. Et on peut faire tort, on peut se tromper. Jamais on peut dire, est-ce qu'il y a des choses qui sont comme ça? Bien sûr qu'il y a des choses dans la parole. Et tu sais, le plus marrant, c'est que tous les deux, ils vont défendre sa vision avec la parole de Dieu à la main. Et c'est pour ça qu'on est là. J'imagine à Dieu dans les ciels, regarder l'église et regarder ses enfants. Un bras qui, comme je disais la semaine dernière, un pied qui voudrait partir là-bas, un bras qui part de l'autre côté, un yeux qui regarde de l'autre côté et l'autre de l'autre. Alors qu'est-ce que c'est ça l'église? Mais ça commence pour nous, ça commence pour moi, que j'arrive vraiment à travailler l'unité avec le Seigneur, avec Dieu. Après, ça peut s'arranger. Mais moi, quand je suis en train de rentrer dans des discussions qui sont comme ça, moi je préfère prendre à mon frère, à mon ami ou à quelqu'un pour dire, il y a des choses de la parole de Dieu que je ne veux pas discuter. Que peut-être que je crois, mais que ce n'est pas la même chose pour toi. Mais que ce n'est pas nécessaire qu'on va rester, tu sais, parce que tu penses une chose et moi je peux penser autre chose. Et c'est ça, des fois, c'est rigolo parce que le monde il commence à utiliser ça maintenant. Il y a, j'ai parlé avec André, il y a une personne qui voit un 6, il y a un autre qui voit un 9 de l'autre côté. Alors ça c'est les jeux de l'ennemi pour nous diviser, que chacun va voir les choses d'une manière différente et que jamais on va trouver un point, un terrain pour travailler l'unité et pour être ensemble. Alors, j'ai fini tout de suite, un Corinthien. Alors, dans ces moments, c'était ça. C'était l'église pour dire, ah oui, je voudrais suivre Apollos. Ah non, l'autre dit, ah non, je voudrais suivre à Paul. Alors, Paul, il a posé la question. Christ, il est divisé. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est pour ça qu'il a dit. Il a dit non. Au contraire. Et ça c'est une vérité. L'autre, non. Parce que croire que j'ai reçu une révélation de la parole de Dieu, mais je peux me tromper quand même. Et je trouve que pour nous, pour les personnes qui ont la responsabilité de prêcher, je pense qu'on peut rentrer facilement dans l'orgueil quand on pense qu'on connaît bien à Dieu, qu'on connaît sa parole. Mais je prie que le Seigneur, il nous garde, il me garde toujours de dire quelque chose que des fois, peut-être c'est un mensonge, ou de rentrer à faire une lutte contre quelqu'un pour quelque chose de la parole. Alors, je finirai avec ça. Quelques conseils pour garder l'unité. Première, écoute ça, et avec ça je finirai parce qu'on va faire la Sainte-Cène. Il faut reconnaître, si ce matin tu as trouvé dans ta vie que peut-être tu as été touché pour cet esprit de division dans ta vie, dans ta famille, dans tous les domaines que j'évoquais, on va les reconnaître ce matin. On va dire, Seigneur, pardonnez-moi. J'étais un instrument. Quelquefois, je m'ai laissé utiliser pour l'ennemi, pour être un instrument de division. Deuxième point, on va nous examiner. On va le faire tout à l'heure qu'on va faire la Sainte-Cène. C'est pour ça que je voudrais faire la Sainte-Cène ce matin, parce que ça fait partie de cette parole que je partage. On va nous examiner à la lumière de la parole et du Saint-Esprit. Troisième conseil, il faut s'humilier devant le Seigneur. Il faut être humble pour reconnaître que dans toutes les discussions, tous les problèmes, toutes les choses, peut-être que je suis la responsable d'une partie, peut-être que l'autre c'est 90%, mais peut-être que j'ai fait quelque chose qui a touché l'autre, ou peut-être que l'ennemi a utilisé cette confusion pour créer la division. Et moi, je me rappelle toujours de Michel qui nous a raconté un rêve. Tu te rappelles, Michel, c'était un crocodile qui était rattrapé, une personne. Et la personne qui était devant regardait à l'arrière. Il ne voyait pas l'ennemi, il ne voyait pas les crocodiles. C'était son frère qu'il voyait. Alors, il a commencé à les taper. Pourquoi tu m'as fait mal? Et c'est ça les joues de l'ennemi. Il va essayer de mettre un couple l'un contre l'autre pour n'importe quelle situation. Vous savez, en Colombie, les jours de l'indépendance, c'est très connu parce que ça a commencé par quand on a un bouquet de fleurs, on les met dans un vase. Ça a commencé par un vase. Et l'histoire de la Colombie, il raconte qu'il y avait une discussion entre un homme d'origine espagnole et quelqu'un qui était d'origine colombienne, qu'ils se sont disputés pour une petite chose, ça a déclenché la guerre et ça a déclenché l'indépendance en Colombie. Un jour, je vais vous raconter l'histoire. Hein. Ça a commencé par un petit détail. Petite chose qui commence. Et l'ennemi, il gonfle, il exagère les choses. Il travaille avec la mensonge. C'est pour ça que j'aime bien de démasquer les choses qu'il fait. Parce que je l'ai vu agir dans ma vie. Voilà, et l'exagération. Il travaille avec ça. Exagérer toutes les choses. Alors, il faut nous humilier devant le Seigneur. Quatrième, et écoute bien ça, avec ça je finirai. Si tu peux prendre note, il faut que tu les prennes. Il faut travailler, écoute ça, il faut travailler la puissance et le pouvoir de la corde. Il faut la corde. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais être d'accord pour faire les choses. En Corinthiens, Amos 3:3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord? C'est ça la question. On peut marcher ensemble seulement si on est d'accord avec les décisions qu'on prend. C'est ça le pouvoir de l'accord. Bien sûr qu'il y a les autorités, bien sûr. Je viens de parler, Dieu a donné, il a laissé des autorités. Mais il faut travailler l'accord. Ça ne veut pas dire que je vais vendre les principes bibliques. Non, ce n'est pas ça, être d'accord avec l'autre. Il y a des choses que jamais on ne pourra pas être d'accord avec les péchés. Bien sûr que ce n'est pas ça que j'ai dit ce matin. C'est important que tu l'entends bien. C'est mettre d'accord avec quelqu'un jusqu'à que le limite que tu peux franchir, ils sont là. Parce que sinon, tu commenceras à tomber de l'autre côté aussi. Alors, se mettre d'accord, ce n'est pas pour dire, écoute, il y a, je vais dire quelque chose qui est fort, je ne sais pas si quelqu'un l'écoute, il y a un couple qui voudrait se marier, des deux hommes à l'église. Alors, on va essayer de trouver un accord pour les faire. Non. La Bible et la parole, c'est la lumière pour notre église. Et c'est important de dire, la vérité, c'est ça dans l'église. Mais il y a des petites choses, comme je disais tout à l'heure, qu'on peut être d'accord. Il y a des petites choses qui, des fois, vont enflammer une grande guerre, mais que je peux être d'accord avec ma femme, dans ta maison, avec tes enfants. Des fois, quand on est des personnes très réglo, on ne va pas laisser faire des petites choses. Il y a des choses qu'on peut concéder. Nous, on les fait. Moi, je travaille avec mes filles de cette manière comme ça. J'essaie de être un peu dans la flexibilité. Jusqu'à là, on peut. De ne pas dépasser les limites. Bien sûr qu'il faut demander la sagesse à Dieu. Parce que ça, on peut les faire qu'avec la sagesse et avec la grâce de Dieu. Sinon, on ne pourra pas les faire. Mais c'est pour ça que c'est important qu'on travaille entre les couples les pouvoirs de l'accord. Et dans notre église, les pouvoirs de l'accord. Ce n'est pas dire qu'on va oublier qu'il y a une autorité, qu'il y a des personnes qui sont la responsabilité. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit dans les petits détails, on pourra nous mettre ensemble pour louer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur, pour prier les uns pour les autres et pour que le royaume de Dieu continue à passer pour l'endroit dans lequel le Seigneur il nous a placés.